Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle des amines. Rassurez-vous, ça ne sera pas un cours sur la norépinéphrine. C'est parti!
Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques.
Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va vous parler des amines. Je suis avec Mathieu. Comment ça va, Mathieu?
Hey, salut Yann, ça va?
Ouais, super bien. Je suis assez content de parler de ça aujourd'hui. C'est le genre de truc que je parle beaucoup avec mes résidents, le genre de petit speech habituel que je leur fais sur les amines. Comme je l'ai dit en entrée de jeu, on va pas parler de la lévo, de la norépinéphrine, d'aucune façon. C'est l'amine la plus utilisée. Je pense qu'on la connaît. J'aimerais ça qu'on parle un peu des amines qu'on utilise aux deux extrémités du spectre d'activation sympathico-mimétique dans nos patients en choc. Alors, bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept-là, c'est assez simple. Alors, si vous avez, par exemple, un jeune patient qui arrive en choc septique sur une pneumonie puis qui est extrêmement adrénergique, par exemple, bon, il y a une pression, on va dire, à 80 sur 50, il y a un pouls à 140, il urine pas beaucoup, il y a un refil capillaire un peu ralenti, vous dosez, vous avez des lactates à 7-8. Bon, vous savez que ça va pas. Alors, oui, la lévo, c'est peut-être un bon choix, mais ce qu'il faut surtout pas lui donner à ce patient-là, c'est de l'épi, tu sais. Souvent, la vasopressine va être un bon choix à ce moment-là, lorsqu'on a une activation sympathico-mimétique très élevée. Et à l'autre bout du spectre, ben, on a des patients, par exemple, des patients plus âgés, qui vont arriver, qui vont être un peu bradycardes avec une faible fraction d'éjection, peut-être même un peu hypothermique, des refils capillaires très élevés, des diurèses abaissées. Puis, on dose, puis les lactates sont à 1,5, alors que le patient est clairement en choc, mais c'est que ces patients-là n'ont plus d'épinéphrine endogène. Alors, ce type de patient-là bénéficierait peut-être plus de l'épinéphrine. Puis les études ont montré que lorsqu'on donne l'épinéphrine à ces patients-là, on fait monter les lactates. Puis en augmentant les lactates, on voit que c'est des facteurs de bon pronostic. Alors, je ne rentrerai pas dans toute la discussion de que doit-on faire avec les lactates, là. Le Surviving Sepsis Campaign en a parlé beaucoup. Bon, des fois, c'est un petit peu bizarre tout ce qu'ils peuvent nous dire sur de normaliser les lactates. Avec les exemples que je viens de vous dire là, c'est peut-être pas tout à fait la bonne chose à faire ni à penser, mais j'aimerais ça qu'on parle de ces deux amines-là aujourd'hui. Puis ce qu'on va faire, c'est que on va vous expliquer un peu peut-être des trucs que vous savez déjà, mais peut-être des choses que vous savez pas. Et pour essayer d'ouvrir les horizons de tout le monde, puis n'hésitez pas à partager votre opinion sur l'opinion qu'on va vous donner sur nos deux amines. Alors, on va commencer avec l'adrénaline, ou communément appelé l'épinéphrine. Alors, Mathieu, avant de commencer ça, est-ce qu'on dit de l'adrénaline ou de l'épinéphrine? C'est quoi la bonne réponse?
Ça, c'est une excellente question, Yann. Puis la réponse va varier selon on est où sur la planète. Hein. On sait qu'en Amérique du Nord, on a tendance à dire épinéphrine ou norépinéphrine, alors qu'en Europe, entre autres, et dans le reste du monde, ils ont tendance à dire adrénaline ou noradrénaline. C'est super intéressant parce que dans le fond, ça vient un peu à la découverte de l'épinéphrine. Il y a un excellent blog de Doc Nico, là, qui est un des amis du Fond, là, qui a fait une superbe revue historique sur la découverte de l'épinéphrine ou de la norépinéphrine ou de l'adrénaline ou de la noradrénaline, selon comment on veut voir. Puis il y a également aussi dans Life in a Fastlane, qui a un excellent blog également qui fait une des belles revues historiques. Donc on va mettre les liens dans la balado. Mais en bref, dans le fond, c'est qu'au tournant des années 1900, il y a deux groupes de chercheurs qui ont découvert l'épinéphrine ou l'adrénaline, un groupe américain puis un groupe anglais. Dans le fond, dans le groupe américain, les premières formulations qu'ils ont trouvées, dans le fond, n'étaient pas tout à fait de l'épinéphrine lui-même, c'était un dérivé benzolé, donc c'était pas le principe actif. Qui ont décidé d'appeler un peu qui l'ont appelé épinéphrine, mais qui l'ont commercialisé sous le nom adrénaline. Donc, ce qui faisait que c'est un des noms qui ne pouvaient pas nécessairement être utilisés pour la dénomination commune en Amérique du Nord, vu que c'était un nom qui était maintenant breveté. Alors qu'en Europe, qui était dans les faits le principe actif, et comme le nom adrénaline n'était pas commercialisé, c'est le nom qui a été adopté comme nom générique parce qu'on ne pouvait pas l'utiliser comme nom commercial naturellement. Et c'est ce qui fait que l'adrénaline est devenue le nom générique en Europe, mais je te dirais aussi un peu partout dans le monde. Alors Qu'en Amérique du Nord, ben, on utilise l'épinéphrine parce que le nom adrénaline était le nom commercial de la molécule. Donc, si on se fie vraiment au niveau historique, la molécule active qui a été découverte était vraiment par le groupe anglais qui l'ont appelée adrénaline. Donc, il faudrait dire adrénaline. Mais malheureusement, je vais dire épinéphrine tout le long.
Ouais, c'est sûr, hein, parce que adrénaline, en tout cas pour nous en Amérique du Nord, c'est dans le langage populaire. Épinéphrine, ça a l'air un peu plus scientifique. Mais bon, c'est intéressant. Puis, comme tu dis, les notes vont être dans la balado. Alors, si on revient à un peu plus de science maintenant, comme je disais tout à l'heure, l'épinéphrine va être extrêmement efficace pour nos patients qui ont des déficits là, en épinéphrine, qui ont des déficits même au niveau du cortisol, et nos patients très âgés qui n'ont plus du tout d'épinéphrine endogène. Donc, l'épinéphrine est un excellent choix. Une manière d'utiliser l'épinéphrine, outre l'utiliser per code et post code lorsque le patient revient à la vie, c'est de l'utiliser lorsque les patients sont avec des hautes doses de lévo et de vasopressine. Fait que, par exemple, le patient qui est en choc septique standard, vous partez la lévo, vous augmentez, augmentez, augmentez la lévo, puis à un moment donné, vous vous dites je vais augmenter, je vais partir ma vasopressine. Puis là, on arrive à des valeurs de lévo qui dépassent largement les seuils recommandés, puis on commence à voir les effets néfastes là, de la lévo. On commence à avoir des baisses de fonction rénale, on commence à avoir des tachycardies qui s'installent. Alors, l'épinéphrine serait un bon choix. Et la physiologie derrière ça est super intéressante, Mathieu. T'es-tu capable de nous l'expliquer un petit peu?
Ouais, ben, ça revient toujours aux récepteurs. Hein. Il faut se rappeler les récepteurs adrénergiques. Hein, juste faire l'histoire courte, le récepteur B1 au niveau cardiaque va faire l'inotropie et la chronotopie positive. Puis en périphérie, le système adrénergique, dans le fond, on va utiliser le alpha 1 qui va vasoconstricter, puis du bêta 2 qui va vasodilater. Puis on a également du bêta 2 là, au niveau pulmonaire qui va faire la bronchodilatation. On se rappellera tous du salbutamol. Qui est un bronchodilatateur, un bêta-2 agoniste. Fait que dans le fond, c'est le ratio en périphérie alpha-bêta, alpha-1, bêta-2 qui va dire si on va vasoconstricter ou on va faire de la vasodilatation. Fait que pourquoi c'est important de s'en rappeler? C'est que si tu prends une molécule comme la norépinéphrine, qui est surtout de l'alpha, là, tu la crains, tu la crains, tu la crains. On sait que le système adrénergique est principalement en veineux. OK? Puis plus tu montes tes doses, plus tu vas aller vasoconstricter l'artérielle. Donc, si tu es rendu à des doses très élevées, tu vas avoir l'artérielle qui va commencer à être contractée. Je sais que ce n'est pas un vrai terme, là, mais c'est pour imager. Puis ça va augmenter la poche charge du ventricule gauche. Fait que ça va baisser le débit cardiaque, ça va baisser les pressions. Puis là, on va tomber dans un cycle où ce que là, ben, les pressions baissent, on va le monter.
Alors, c'est comme si tu me disais que lorsqu'on donne des amines à très haute dose, on finit par causer un genre de choc cardiogénique causé par, en fait, iatrogénique, un choc cardiogénique iatrogénique causé par nos surcharges d'amines, sans compter la vasoconstriction coronarienne qui peut être néfaste là aussi, hein.
Exactement. C'est vraiment une cardiomyopathie induite par les amines. C'est la belle façon de dire, ben, on ne sait pas trop ce qu'on fait, puis on nuit un peu aux patients d'une certaine façon. Là, l'affaire, dans le fond, c'est si tu dis, OK, bon, comment je peux potentialiser mon retour veineux, OK, donc en vasoconstrictant avec mon adrénergisme, tout en conservant une fraction d'éjection, puis une pression, puis un débit cardiaque qui est adéquat. Donc, j'ai besoin du bêta 1. Fait que, pourquoi prendre la norépinéphrine, la crinquer comme un sans-dessin pour aller chercher son bêta 1, puis là avoir un effet vraiment bêta 1 en ayant vraiment beaucoup d'alpha 1 qui va me nuire beaucoup plus? Alors à ce moment-là, ça ferait du sens d'aller chercher la molécule qui est principalement bêta 1 comme l'épinéphrine. Fait que, à petite dose, hein, l'épinéphrine, on se souvient, c'est un bêta 1 un petit peu alpha, mais presque pas. Fait que si tu mets un peu d'épinéphrine, dans le fond, tu vas taper sur le B1, tu vas augmenter ta contractilité, ton inotropie, tu vas augmenter ton débit cardiaque. Si en faisant ça, tu es capable de couper sur ta norépinéphrine, donc tu vas diminuer tu vas dérecruter, là, entre guillemets, ton artériel, tu vas diminuer ta résistance vasculaire. Fait que de facto, tu joues sur deux affaires, puis tu augmentes ton débit cardiaque, tu vas augmenter tes pressions.
Donc, globalement, tu améliores ton inotropie à cause de ton épinéphrine, puis tu relâches un peu toute la pression sur le système vasculaire artériel causé par tes hautes doses de norépinéphrine de Levofed. Alors, de cette façon-là, tu es capable de baisser ta norépinéphrine grâce à l'augmentation de ton épi. À ce moment-là, tu peux même réussir à sevrer ta norépinéphrine pour rester avec un épi et vaso. On se rappelle que le patient avait de la la vasopressine aussi, là. Alors, ça vient aider à ce niveau-là. Je me suis souvent fait dire par des collègues à l'urgence ou aux soins intensifs, bah, t'as de la lévo, ça donne à rien de mettre de l'épi, là. T'sais, parce que les gens voient tout le côté alpha potentiel qui est là. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que si on donne des très hautes doses d'épi, peut-être que lui, on peut aller jouer sur de l'alpha, mais au fond, c'est beaucoup plus l'effet bêta qui va être mis en évidence à ce niveau-là. C'est bien ça?
Oui, tu as tout à fait raison. Puis, ce qu'on se rend compte, là, c'est que les doses d'épinéphrine, c'est que plus tu vas les monter, tu n'iras pas te chercher nécessairement plus de bêta 1. Tu vas juste commencer à aller chercher de l'alpha 1. Fait qu'à un moment donné, tu vas finir par juste avoir beaucoup trop de bêta 1. Tu vas avoir tous les problèmes qui viennent avec. Puis, en plus, tu vas commencer à avoir du problème avec l'alpha. Fait que, d'un point de vue pharmaco, ça fait aucun sens. Si tu veux du
Fait que t'es pas
bêta,
obligé de mettre des hautes doses d'épinéphrine non plus avec ce que tu viens de dire là.
pas en tout. À vrai dire, un des meilleurs mix, là, si tu dis, faut que je clampe un petit peu mon alpha, donc faut que j'augmente un petit peu le retour veineux, puis j'ai quand même besoin de fouetter un petit peu le cœur avec du bêta 1. Dans les faits, là, tu peux partir un fond de norépinéphrine, mais tu peux y mettre un fond d'épinéphrine, donc tu mets les deux. Pourquoi? C'est que ça va te permettre de limiter les besoins des deux amines, fait que tu vas limiter tes effets secondaires. Tu vas limiter aussi ton iatrogénisme. D'une certaine façon. Puis tu vas avoir une meilleure optimisation de l'hémodynamie de ce point de vue-là.
Mais faites attention si vous faites ça parce que votre patient, s'il est tachycarde à l'avance, vous risquez de nuire fortement en faisant ça.
C'est ça, là, faut quand... là, on parle de récepteur, là, il faut toujours que tu regardes ton patient devant toi, là, on s'entend.
Effectivement. Alors, lorsqu'on a une tachycardie, par exemple, je pense que je voulais pas en parler trop aujourd'hui, mais nos patients à FA, par exemple, ben, la phényléphrine, la néosinéphrine reste peut-être un amine de choix à ce niveau-là, lorsque vos patients roulent extrêmement vite, là. C'est un petit aparté. Alors, intéressant sur l'épi, fait que on garde en tête que lorsqu'on a des hautes doses de lévo et de vasopressine, de norépinéphrine et de vasopressine, peut-être que l'épi est un choix à devenir. Ajouter ça pour titrer un vers le haut puis titrer l'autre vers le bas. Autre amine, dans l'autre spectre, dans justement quand le patient a une activation sympathico-mimétique élevée, la vasopressine. La vasopressine, il y a quand même beaucoup de choses à dire avec ça. C'est une amine, elle a une historique, là, 2008, je pense que c'était VAST, là, qui n'avait pas fait une amine de choix. Vanish était venu dire, ah, peut-être qu'on a un gain de le mettre en début. Là, on vient de voir une méta-analyse qu'on pourra vous mettre dans les notes de la balado qui dit que ben, finalement, la vasopressine en premier, ça n'a peut-être pas un effet pas un effet si bénéfique, mais ça a pas de gain sur la mortalité de débuter avec la vasopressine, comme un peu on était resté sur l'idée avec les dernières études dans les 5-6 dernières années. Mais je ne veux pas aller dans toute cette historique-là. Il y a 3-4 choses que je voudrais qu'on parle de la vasopressine. Alors, je commence tout de suite en disant, j'ai beaucoup de résidents qui m'ont posé cette question-là, fait que j'aimerais ça avoir l'opinion d'un pharmacien sur ce point-là. Il y a beaucoup de gens qui confondent le DDAVP, l'ADH, la vasopressine, la desmopressine. Il y a des résidents qui m'ont dit, oui, mais le patient est en choc, il urine pas. Pourquoi on lui donnerait de la vasopressine? On va nuire. C'est comme si on lui donnait de l'ADH. Donc, on va lui donner une hormone antidiurétique. Alors, c'est un peu stupide de donner de la vasopressine quand on a un patient qui est en choc puis oligurique. Alors, je la connais la réponse, là, mais qu'est-ce que tu y répondrais? À ce résident-là ou à n'importe qui se pose cette question-là, parce que c'est une bonne question. Dans les faits, c'est un peu comme ça qu'on se l'est fait vendre, la vasopressine. Mais explique-moi ça d'un point de vue pharmaco, pourquoi que c'est pas vrai?
Ben dans les faits, tu sais, faut. Ça, c'est vrai pour toutes les amines, hein. Le poison est dans la dose. On s'entend. Ce qu'il faut se rappeler, hein, l'ADH, c'est notre hormone qui est naturelle, hein, qui a un ratio, OK, V1, V2. Bon, juste pour faire une histoire courte, le récepteur V1, OK, qui est en périphérie, c'est un vasoconstricteur, OK, c'est un peu comme du alpha-like. Ça va faire la même chose, mais contrairement au alpha, hein, tout le système vasopressinergique est pH indépendant, ce qui est super intéressant. Dans la littérature, l'ancienne nomenclature était le V1A, okay? Juste pour si jamais vous cherchez, là. Fait que le V1, il vasoconstrict. C'est dans les faits, l'ADH est le vasoconstricteur le plus puissant dans le corps humain. Après ça, tu as le récepteur V2. Okay. Le V2, lui, c'est un peu nos aquaporines. C'est notre récepteur antidiurétique au niveau des néphrons qui va retenir l'eau, hein, littéralement. Dans le fond, ce qu'il faut voir, là, c'est que le système vasopressinergique, c'est un système évolutif, hein. Ça nous a permis d'être encore vivants. C'est le système qui nous permet de gérer notre eau qui nous permet de passer à travers des périodes de sécheresse, si on veut. Parce que l'ADH en soi, okay, dépendamment de la concentration, va aller chercher le V2, donc va clamper le rein, là, si on veut, pour retenir l'eau, mais il va également toucher le V1 pour maintenir les pressions, parce que là, on est littéralement en disette. Là où ce qu'on s'est dit, mon Dieu, l'ADH, ça peut être utile, on a créé de la vasopressine qui est synthétique, qui a un ratio grossièrement comme l'ADH, là, avec un légèrement plus V1. Donc, c'est vraiment plus un amine vasoconstricteur. Alors que la desmopressine, qui est le DDAVP de nom commercial au Canada, elle, c'est de l'ADH synthétique, mais qui a une affinité beaucoup plus élevée pour la V2. C'est pour ça qu'on va l'utiliser comme hormone antidiurétique, l'énurésie, puis bon, tout c'est une excellente clampe du rein, dans les
On le voit
faits.
bien sur nos patients dont d'organes qui ont des diabètes insipides neurogéniques, là. On donne 1 à 4 microgrammes, puis poum, la diurèse arrête, là, ou nos patients qui vont avoir même les diabètes insipides de standard, là, qui peuvent avoir une bonne utilité à ce niveau-là pour casser la diurèse.
C'est ça. Puis ça, tu sais, t'auras pas d'effet V1 parce qu'elle a une affinité, elle a une sélectivité beaucoup plus importante pour le récepteur V2. Fait que c'est ça la grosse différence entre ces deux amines-là. Fait que le fait de donner la vasopressine, qui est de l'ADH synthétique, qui est plus V1, un peu plus V1, à des doses, on va dire standard dans les recommandations, t'auras pas d'impact vraiment sur le V2. Fait que, tu sais, si tu utilises la vasopressine, qui est l'ADH synthétique, qui a un petit peu plus V1, tu n'auras pas d'impact nécessairement sur le V2. Mais c'est sûr que si tu crains tes doses comme un fou, ben oui, tu vas éventuellement avoir ça. Puis, ou tu vas aussi avoir l'ischémie mésentérique, l'ischémie cardiaque, l'ischémie digitale, là. Mais bon, on s'entend qu'aux doses qu'on utilise de vasopressine, tu devrais pas taper sur le V2. Fait que tu devrais pas avoir cet effet-là.
En général, on maintient 2,4 unités R jusqu'à 3,2 unités R, donc on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Alors, c'est bon, ça répond bien à la question. J'espère que ceux qui se questionnaient là-dessus ont eu la bonne réponse. Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que tu as dit. Tu l'as dit rapidement, puis je pense que c'est important de faire un lien. On le sait tous, lorsqu'on a des patients qui sont sous amine, comme par exemple avec la norépie ou de l'épi, et qui sont en acidose métabolique, à un moment donné, on voit qu'il y a comme un cercle vicieux qui fait que nos amines ne fonctionnent plus. Tu as dit rapidement tantôt que la vasopressine est pH indépendant, et ça, c'est vraiment intéressant. C'est lorsque vous allez avoir un patient qui a une acidose métabolique sévère, au lieu d'être obligé de donner des bicarbonates en push ou en perfusion, ben, la vasopressine reste un excellent choix. Je ne veux pas rentrer trop dans ces détails-là, mais c'est important de savoir que la vasopressine est le seul amine qui est pH indépendant, donc un bon choix lorsque votre acidose métabolique est très, très, très sévère. Autre point intéressant sur la vasopressine, Mathieu, c'est les médicaments qui causent des déficiences relatives. Alors, c'est des médicaments qui sont de tous les jours pour beaucoup de nos patients et qui viennent nuire probablement un peu à nos patients en choc. Je pense à nos antihypertenseurs, là, de certaines catégories, tu vas nous parler un peu. Alors, le patient qui arrive, qui est en choc septique et qu'en plus est rempli de certains antihypertenseurs ou autres médicaments, ben, peut-être que la vasopressine devient un bon choix là-dedans à cause de la déficience relative.
Tu as tout à fait raison. Il y a plusieurs patients qui vont avoir une déficience relative fonctionnelle en ADH, là, en vasopressine. Parce qu'il faut quand même se rappeler, hein, que seulement une diminution de 20 à 30 % du volume circulant va faire un largage de 20 à 30 fois la normale de l'ADH. Fait que c'est vraiment pour dire que c'est un puissant vasoconstricteur, c'est un puissant agent. Fait que si tu prends des médicaments qui vont inhiber ce relargage-là de l'ADH, hormonal, on peut penser à tout ce qui va jouer sur les médiateurs de régulation, OK? Parce que le système rénine-angiotensine-aldostérone travaille étroitement avec le système vasopressinergique. Fait qu'on a besoin de l'angiotensine 3. Fait que tous nos médicaments qui vont bloquer un peu le système rénine-angiotensine-aldostérone peuvent causer une déficience relative en vasopressine. Donc, on va surtout penser à nos IECA, nos ARA. C'est nos patients là, qui sont souvent hypertendus qui ont ça. Dans la vie de tous les jours, il n'y en a pas de problème. Sauf que quand ils tombent en choc, ils vont avoir une composante de vasoplégisme, si on veut, tu sais, c'est des patients-là, des fois, tu as de la misère de sevrer tes amines, tu as de la misère parce que, justement, il y a une composante de déficience relative en vasopressine chez ces patients-là. Il y a d'autres médicaments comme les opioïdes également. On parle surtout de la morphine dans la littérature, mais il y a d'autres agents. Fait, tu sais, on le dit souvent, nos opioïdes sont sympatholytiques, à haute dose. Fait que, tu sais, on les utilise beaucoup comme analgésiques. Fait que si on les utilise énormément, ça peut être un des mécanismes derrière notre vasoplégisme à l'analgésie, si on veut.
Oui, puis c'est ce que tu me dis, ça me fait réaliser qu'il y a certains patients que des fois, on veut arrêter, on a par exemple la neuropie et de la vaso. On arrête notre neuropie, ça va super bien. Puis après, on est capable de sevrer notre vaso. Mais si on veut sevrer notre vaso en premier, ça fonctionne pas. Parce que justement, là, on remet en évidence justement ce déficit relatif-là. Alors, de toute façon, je pense que la littérature le suggère fortement lorsque vous avez deux amines incluant la vasopressine, commencez par votre autre amine. C'est souvent la deuxième amine qu'on a mise en place aussi. On avait de la norépinéphrine, on a parti de la vaso. Puis là, on réussit à baisser la norépie parce que la vaso vient combler le déficit. Là, on peut même sevrer notre norépie en premier, puis on sève la vaso après. Alors, c'est ça qui est mieux, puis c'est ça qui est plus suggéré au niveau de la littérature, de garder ben, la vasopressine en deuxième pour le sevrage.
Puis t'as tout à fait raison, puis on le voit aussi parce qu'il y a des papiers dans la littérature qui se sont posé la question, si on sève la vasopressine en premier, il va-tu avoir plus d'hypotension? Puis ce qu'on remarquait, c'est quand tu as eu de la vasopressine moins de 48 heures, puis que c'est la vasopressine qui t'arrête en premier, 3 patients sur 4 vont avoir une hypotension dans les heures qui vont suivre. Parce que ça nous indique que le patient, il a encore besoin d'un supplément de vasopressine. Quand ça fait plus que 48 heures, ça diminue beaucoup puis ça devient un peu non significatif. Et quand ça fait vraiment longtemps que le patient est sur vasopressine, probablement que cet effet-là est atténué. Donc, on pourrait sevrer un ou l'autre. Sauf que si tu décides de sevrer ta vasopressine en premier, puis ton patient, il redevient hypotendu, il faut pas. L'erreur, ça va être d'augmenter la norépinéphrine. Il ne faut pas faire ça. Il faut repartir la vasopressine. Puis là, à ce moment-là, il faut absolument sevrer la norépinéphrine en premier. Parce que ton patient est en train de te dire, j'ai encore un peu de déficience, j'en ai besoin de ma vasopressine.
Excellent. Autre point intéressant avec la vasopressine, tu le sais, Mathieu, on parle souvent là, en dehors de nos enregistrements, puis le ventricule droit, l'hypertension pulmonaire, l'évaluation de la pression artérielle pulmonaire devient de plus en plus importante à prendre en compte. À ça, je pense qu'il faut donner le crédit à notre collègue André Deneau qui fait de multiples études sur le VD et l'hypertension pulmonaire. Et la vasopressine aurait un effet bénéfique au niveau des patients qui ont une hypertension pulmonaire et qui sont en choc. Alors, parle-moi donc un peu de l'effet vasodilatateur pulmonaire de la vasopressine.
Oui, ben dans le fond, c'est encore relié au récepteur. Puis des fois, ça peut paraître contre-intuitif de dire qu'un récepteur va créer de la vasoconstriction en périphérie, mais que au niveau de l'arbre pulmonaire, ça va créer de la bronchodilatation, si on veut. C'est vraiment relié au fait que si tu vasoconstrictes trop, tu sais, si tu réfléchis, là, si tu actives ton fight or flight, ta réponse, là, si tu augmentes ta pression pour justement courir plus vite, être plus agile, puis finalement tu bronchoconstrictes tout, tu vas avoir un mismatch d'oxygène, puis les gens qui avaient ça, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus là. T'sais. C'est un gène qui s'est perdu. Donc, c'est une évolution adaptative de dire que je vais maintenir la pression, je vais me vasoconstricter en périphérique, puis je vais vasodilater mon arbre pulmonaire. Parce que de cette façon-là, je peux optimiser mes échanges gazeux dans le but de survivre. C'est toujours ça, l'être humain. Le corps s'est adapté comme ça. C'est vrai dans le système adrénergique, mais c'est vrai aussi pour le système vasopressinergique. Donc, la vasopressine, c'est un puissant vasoconstricteur, mais c'est un puissant bronchodilatateur également.
Oui, effectivement. Puis comme on le voit, en tout cas, moi, je sais que dans ma pratique depuis les dernières années, l'évaluation de ma PAP est quasiment rendue de facto, surtout avec tous nos patients. Puis dans le COVID, c'est devenu absolument nécessaire. Les pressions d'artères pulmonaires augmentent dues à la pathologie pulmonaire, à la ventilation, au PEEP extrêmement élevé. Alors, à un moment donné, ces patients-là ont besoin d'avoir un petit peu de relaxation pulmonaire. On y va pas mal avec, on peut y aller avec le NO, on peut y aller avec la mélérinone en nébulisation, on peut y aller avec le Flolan. Toutes ces choses-là vont bien, mais si par malheur, en plus, vous avez une hypotension, ben, la vasopressine devient probablement une amine de choix dans un contexte d'hypertension pulmonaire, qu'elle soit primaire ou secondaire, je pense que ça peut vous aider à ce niveau-là. Également dans les embolies pulmonaires, là. Donc, pour tous ces types de pathologies-là, je pense que la vasopressine a son mot à dire et son utilité que vous devez garder en tête.
Tout à fait d'accord.
Excellent. Écoute, comme on l'avait dit, on ne faisait pas un cours sur l'allez-vous aujourd'hui. Je pourrais juste vous dire que pour tout le reste des patients, vous pouvez utiliser l'allez-vous. Ça reste quand même une excellente amine. On va vous donner le plus d'informations possibles dans les notes de la balado pour essayer d'étayer notre propos. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup, Mathieu. On se revoit pour un prochain épisode. Ciao. Bye.
Merci Yann. Bye tout le monde. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.